Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous nous avez rejoints sur révélationbible.fr et que vous écoutez la parole de Dieu ce matin. On est le 22 novembre et c'est un grand jour pour le Burkina Faso puisqu'ils vont élire leur président, mais surtout ils vont élire Nicolas Samadogo. Alors, on prie pour Nicolas pour qu'il soit élu. Amen.
Amen.
Seigneur Jésus, nous te prions pour notre frère Nicolas Zoubelé Samadogo pour qu'il soit élu député au Burkina Faso afin qu'il puisse apporter une pierre positive et de foi à cet édifice dans ce pays qui souffre tellement. Au nom de Jésus, je bénis cet homme et sa famille afin qu'il puisse remporter ces élections, gagner et être député au nom de Jésus-Christ. Amen.
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 Voilà, gloire à Dieu, c'est bien. Merci. Merci. Que Dieu soit béni. On va continuer notre culte ce matin. Je vais juste regarder si, oui, ça a l'air d'avoir marché. Ça a marché. On va ouvrir nos... Parce que je vais envoyer ça à Nicolas tout à l'heure, afin de le réjouir, de voir que aussi nous prions, nous sommes fidèles dans la prière. Jacques 2, 26. Jacques 2, 26. Jacques 2, 26 nous dit... En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Jésus, je te prie pour que tu ajoutes ta bénédiction à ce que je vais dire et que cela soit quelque chose de fort pour mes frères et sœurs et tous ceux qui viennent écouter ce message sur notre site. Merci Jésus. Amen. Alors, ne soyez pas des spectateurs de votre vie. Quand on passe par des moments difficiles, et surtout maintenant, si les gens sont confinés chez eux, nous ça va parce qu'on a un grand terrain, on peut se promener dans la nature, c'est magnifique. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans des toutes petites chambres de rien du tout et ils ne voient personne. C'est très difficile. Il y a des gens qui sont en surpopulation, dans des petites chambres de rien du tout, des petits appartements, et ils souffrent, alors ça pense, ça ressasse, ça constate toutes sortes de choses, toutes sortes de situations douloureuses de leur vie, et même dans les choses qui se sont passées autrefois, parce que voilà, ben, ça va un moment de regarder la télévision, mais il y a des moments de solitude terrible qui font que les gens sont dans la souffrance, et puis, c'est tout. La seule question valable, c'est que faire ? Que faire ? N'est-ce pas ? Alors, vous avez deux possibilités mauvaises. Soit vous vous bloquez dans vos plaintes, vos gémissements, sans réussir à dépasser votre peine. Ça, c'est une mauvaise façon. La deuxième mauvaise façon, c'est de prendre la position des pseudo-sages qui contemplent la situation avec distanciation, en essayant de contrôler leurs émotions, mais ça, c'est des mauvaises façons de faire. Vous savez, on nous a habitués, on est une génération de spectateurs, on nous a habitués, on a vu tellement de films à la télé, qu'on a pris la manie de tout regarder comme des spectateurs. Seulement voilà, là on est dans la vraie vie, c'est votre vie. Vous devez être les acteurs de votre vie, pas les spectateurs de votre vie. Jésus nous dit d'avoir la foi et il nous est dit par l'apôtre Jacques que la foi doit être active, sinon elle est morte. Elle ne sert à rien, c'est-à-dire. Alors, vos pensées, vos idées doivent être désormais, dès maintenant, au service de l'action. Il le faut, sinon ça va. Vous savez que les hôpitaux psychiatriques se remplissent encore plus que les hôpitaux ne se remplissent avec le Covid, parce que les gens sont dépressifs. Vous êtes chrétien, alors il ne faut pas vous laisser sombrer dans la dépression, dans le découragement. Arrêtez de vous dire Oh, il faudrait que... Bien. Il faudrait surtout pas que... Ou alors, si au moins on pouvait... Non. Tout ça, c'est des pensées irréalistes. C'est irréaliste. On ne peut pas réaliser... En ce moment, le monde entier passe par une crise. Eh bien, cette crise peut devenir catastrophique pour vous si vous avez des idées toutes faites. C'est vrai que c'est difficile financièrement pour les restaurateurs, pour les artistes, pour beaucoup de monde, c'est très difficile. Il va y avoir des faillites, c'est terrible. Mais il ne faut pas que vous ayez des idées toutes faites. Qu'est-ce que cette crise vous invite à faire ? À sortir de là, à sortir de ce que vous connaissez déjà. La crise vous invite à penser contre vos acquis, contre vos préjugés, contre ce qui vous immobilise, contre la répétition de vos manières de faire. La crise vous invite à penser, parce que très souvent quand tout va bien, on pense, on prend nos pensées pour des vérités. Alors qu'elles ne sont que des croyances. Ce n'est pas la vérité, elles sont des croyances. Beaucoup, très souvent. Je vais vous expliquer. Il y a beaucoup de fausses croyances. Beaucoup. Vous devez cesser de croire. Vous devez savoir. Savoir que vous n'êtes pas rien du tout. Savoir que Dieu va prendre soin de vous, et il prend soin déjà de vous. Savoir que vous n'êtes pas des malchanceux. Savoir que vous avez du pouvoir. Savoir que tout vous est possible puisque vous croyez en Jésus, qui vous assure tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que c'est croire ? Qu'est-ce que c'est croire ? C'est penser que quelque chose est vrai, mais aussi, par exemple, croire, c'est penser que c'est probable. Ah, je crois que demain il fera beau. Là, on n'est pas sûr. Vous croyez dans l'existence de Dieu. Vous croyez que votre doctrine est la vraie. Mais tout ça, c'est stérile, 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 stérile. Je vous le prouve par la Bible. Par la Bible elle-même qui dit qu'il faut qu'on croit. Il faut prendre toute la Bible, pas seulement un petit morceau. Jacques chapitre 2, toujours, et verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Les démons croient en Dieu. Ça leur sert à rien. Parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut. Vous comprenez cela ? Ce qu'il vous faut, c'est passer du stade de croire au stade de savoir. Savoir que Dieu existe, c'est être conscient, c'est connaître la valeur de ce que cela dégage. C'est faire l'expérience de l'existence de Dieu. C'est se mettre en action selon ce qu'il dit qu'il faut faire. C'est plus que de croire en lui, croire. Plein de gens croient en Dieu et ils vivent comme des païens, comme le diable. Parce que croire, c'est passif. Il faut croire, mais il faut dépasser ce stade. Il faut savoir, parce que le savoir pousse à l'action. Quand on sait, on fait. Et puis, il y a un troisième verbe qu'il faut rajouter là-dedans. C'est le verbe connaître. On va lire dans Matthieu, chapitre 22, verset 29. Chapitre 22, verset 29. Voilà ce que Jésus dit. Il dit ça à des religieux, à des croyants. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne connaissez pas. Vous croyez, mais vous ne connaissez pas. Il faut dépasser le stade de la croyance. Ça, c'est pour les enfants. Maintenant, il faut devenir mûr, il faut grandir. Il vous faut savoir, il vous faut connaître. Jésus disait ça à des religieux, à des gens qui croyaient. Ils croyaient, mais ils ne connaissaient pas. Ils croyaient, mais ils ne savaient pas. C'est ce que Jésus leur dit. Mes frères et sœurs, cette crise, ce confinement, vous appelle à entrer dans une forme de, je ne sais pas si le mot existe, d'intranquillité. Je ne sais pas si le mot existe. Ben, je l'invente. Vous devez entrer dans une forme d'intranquillité. Oh, si vous voulez être tranquille, restez dans l'impuissance. Plaignez-vous, comme tout le monde. Maintenant, il faut que vous commenciez à avoir l'image réelle de ce que vous êtes réellement. Un croyant qui sait et qui connaît, qui vit quelque chose, qui expérimente quelque chose, qui a une foi active. Libérez-vous de ce masque de croyant passif, paralysé. Vous savez, quand on a un masque, ça ne bouge pas beaucoup, hein? Ce masque de croyant vous paralyse parce que vous voyez une incohérence entre ce que vous croyez et ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Je prêchais l'autre jour sur ce texte merveilleux qui dit « L'Éternel te dit, tu seras toujours la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et pas en bas. » Et je vois des tas de gens qui sont la queue et qui sont en bas et qui disent « Oui, l'Éternel a dit que tu ne seras pas la queue. » Oui, mais alors pourquoi ils sont toujours la queue? Pourquoi ils sont toujours en bas? Pourquoi ils sont toujours derrière? Pourquoi ils sont toujours dans l'échec? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils croient, mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils ne vivent pas. Vous êtes angoissé, vous avez des émotions, vous avez des sentiments, c'est la preuve que vous êtes humain. Vos angoisses, vos émotions, vos sentiments, ça vous permet d'accepter cette épreuve. Voilà, vous la connaissez, vous savez ce que c'est. C'est pas rigolo, c'est pas rigolo. C'est terrible. Pour beaucoup de gens, c'est terrible. Ce qui vous arrive, vous le connaissez et vous ressentez de l'angoisse. Alors, à partir de là, vous pouvez commencer vraiment à agir. Faut pas rester là. Il ne faut pas rester comme ça, replié sur vous-même. Ne vous posez pas trop de questions sur ce qui paraît évident, sur ce qui vous paraît évident. Oui, c'est évident, je vais devoir fermer ma boutique. Oui, c'est évident, c'est foutu. Oui, c'est évident, gna gna gna. Parce que souvent, ce qui nous paraît évident, ce sont des habitudes, des routines, des préjugés, il faut que vous sortiez de ça. Découvrez qu'il y a plein de gens autour de vous. Ça veut dire plein de possibilités. On ne peut pas sortir. Si, on peut sortir. Faites une attestation, vous sortez. Mettez le masque, parce que voilà, ça vous économise 135 euros. Vous sortez, il y a plein de gens autour de vous, vous allez voir des gens, vous allez pouvoir faire des choses, vous allez pouvoir aider des personnes, vous allez pouvoir... On ne peut pas toujours trouver les solutions à tout en claquant des doigts facilement, rapidement. Et souvent, quand on fait quelque chose, on ressent aussi de la peur, de l'angoisse et des souffrances, c'est sûr, c'est certain. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit... Ceux qui veulent tout n'auront rien. Ceux qui veulent tout n'auront rien. Il y a une raison. C'est infantile de vouloir toutes les solutions à tous les problèmes, à toutes les frustrations qu'on a, tout de suite, un claquement de doigts. Un chrétien, ce n'est pas des Mary Poppins. On n'est pas la sorcière bien-aimée qui bouge son nez puis s'arrange tout. Depuis que je suis disciple de Jésus, mes frères et sœurs, j'ai appris que la vie se donne petit à petit. Est-ce que vous avez remarqué ça? C'est petit à petit. Parfois, j'ai dû défoncer des portes Ça ne servait à rien de regarder ces portes fermées devant moi qui m'empêchaient d'avancer en demandant à Dieu de les ouvrir. Il a fallu que je fonce dedans, que je les casse. Moi, des fois, il suffisait d'ouvrir, elles étaient ouvertes. Mais elles étaient fermées, il fallait ouvrir. Et puis quand c'était fermé, ben, il fallait un bon coup d'épaule dedans pour les défoncer, puis pour passer. Non mais oh! Vous savez quoi? La porte qui est fermée devant vous, elle ne s'ouvrira pas toute seule. La porte, elle attend quelque chose. Elle me dit, ah bon, les portes attendent? Oui, les portes attendent, elles attendent que vous les ouvriez. La montagne qui est dressée devant vous, cette montagne de problèmes, de maladies, de difficultés financières et toutes sortes de choses, ces montagnes de dépression, ces montagnes qui sont devant vous, ne partiront pas toutes seules. Elles attendent que vous leur parliez avec foi, que vous leur dites, maintenant, fous le camp. Au nom de Jésus. Jésus dit de faire ça. Mais parler, c'est déjà une action. Parlez à vos difficultés. Jésus parlait au vent, à la mer. Non, bien sûr. Oh, j'aurais l'air d'un idiot. Ben écoute, si tu vas avoir l'air intelligent puis rester dans ta misère, tu fais comme tu veux. Alors, cette crise que vous vivez, quelle sorte de questions vous pose-t-elle? Peut-être que vous n'en savez rien du tout, vous êtes simplement dans une espèce de dépression. Vous dites, ça va pas, ça va mal, etc. Alors, si vous ne savez pas quelles questions vous poser, au moins, gardez les yeux ouverts et interrogez le Seigneur. Il va vous parler. Il a une bouche qui parle, il a des oreilles qui entendent. Ce n'est pas comme vos statues. Et puis, surtout, ne vous posez pas les mauvaises questions, comme je disais au début. Et des mauvaises questions. Faites des choses qui porte de bons fruits. Ne faites pas n'importe quoi. L'action de foi, c'est pas de la gesticulation. Faites pas n'importe quoi. Je regardais la télé l'autre jour, en attendant le repas, et il y avait un cuisinier qui parlait. Parce que chez nous, très souvent, avant le repas, il y a quelqu'un qui allume la télé, un frère, et puis c'est soit un cuisinier, soit un bonhomme avec les mains dans le cambouis. Je dis ça pour faire rigoler les frères et sœurs. Et là, ce jour-là, c'était un cuisinier. Et il a dit une chose, ça m'a frappé, ça m'est resté, je trouvais ça intéressant. Il dit, je n'invente pas de nouvelles recettes dans mon bureau, je les invente devant mon fourneau. Merci Samuel d'avoir mis cette émission. C'est bien. Ça m'a parlé, j'ai dit ça, c'est une bonne phrase. Je vais terminer en vous racontant ce qui m'est arrivé hier. C'est hier que ça m'est arrivé. J'ai reçu un petit mot d'une chrétienne de Côte d'Ivoire qui s'appelle Désirée Saï. Voilà ce qu'elle m'écrit. Bonjour pasteur. Avez-vous été une fois en Afrique de l'Ouest? Si oui, alors nous avons reçu dans mon pays, la Côte d'Ivoire, un pasteur du nom de Michel Janton, pour un programme de prière sur le campus de Cocody. Ça devait être entre 2003-2004, c'était en été, car j'étais étudiante. J'ai participé à la rencontre de prière du samedi et j'ai été guérie d'une tumeur au sein gauche. Je souffrais atrocement. Également, ce jour, un autre étudiant avait reçu sa guérison. Il souffrait d'un problème à la hanche et à sa colonne vertébrale. Lorsque je me suis avancé pour rendre témoignage, vous avez dit votre nom et vous avez signifié que vous venez de la Suisse. J'ai juste retenu Michel Janton. Aujourd'hui, je vis en France et je ne cesse d'être reconnaissante au Seigneur. Si ce n'est pas vous, alors c'est pas grave. Je bénis quand même le nom de l'Éternel pour ma guérison cette année-là. Merci. Alors j'ai répondu oui, c'était moi. Oui, c'était moi. Dans les années 2002, 2003, 2004, Abraham Gadji m'invitait toujours pour des conférences et je priais pour les malades. Et il y a eu énormément de guérisons, il y a eu beaucoup de conversions. c'était Abraham Gadji. Alors on dit, oui, c'est vrai, c'était après Mekran. Dit, oui, c'est vrai, c'était Abraham Gadji. Ah, c'est, ça fait plaisir. Un jour, avec Abraham Gadji, nous étions, nous avions commencé la réunion, on était tous les deux déjà assis sur l'estrade, il y avait les chants qui, ça commençait, il y avait beaucoup de monde, et je me suis aperçu que j'avais oublié ma Bible et mes notes dans la voiture de Gadji. Alors je lui ai dit, Abraham, j'ai oublié ma Bible et mes notes dans la voiture, il faut aller les chercher. Alors on est sorti de la réunion et en courant sur le parking, il me dit, j'espère qu'il va y avoir des miracles parce que j'ai basé toute la pub sur les miracles. Alors j'espère qu'il va y en avoir. Et j'ai répondu en rigolant, ça, c'est Dieu qui fait les miracles, hein, c'est pas moi. Alors oui, c'est vrai que c'est Dieu qui fait les miracles. Oui, c'est vrai que c'est pas moi qui fais les miracles. Mais toute prière exaucée est un miracle. Mais la prière ne suffit pas. Il fallait de l'action de notre part pour que ces miracles se produisent, pour que cette femme qui avait cette tumeur au sein, qui souffrait atrocement, pour que ce garçon qui avait un problème de colonne et tout ça, pour qu'il puisse être guéri, il fallait une action de notre part. Quelle sorte d'action? Ben des actions pratiques. Il fallait d'abord louer une salle. Ça coûte cher. Ensuite, il fallait faire des affiches. Ça coûte cher. C'est du travail. Ensuite, il fallait que je prenne un billet d'avion. Ça coûte cher. Puis je déteste prendre l'avion. C'est pas l'avion tellement qui me dérange. Moi, c'est avant, vous savez, passer la douane, les machins, c'est long, c'est casse. Mais il fallait le faire. Et puis, il fallait réserver un hôtel. Parce que quand même, si je reste 15 jours dans un endroit, il faut bien que je dorme quelque part. Puis ça coûte cher. Donc tout ça, c'était beaucoup d'énergie, beaucoup d'imagination, beaucoup d'argent, beaucoup de... Et puis après, il fallait oser prêcher que Jésus n'a pas changé, que ce qu'il a fait autrefois, il le fait aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup qui osent prêcher que Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il va guérir aujourd'hui, là, les malades qui sont là. Il n'y en a pas beaucoup qui osent faire ça. Et j'ai prêché pour que les gens qui ne croient pas, croient. Et j'ai prêché aussi pour que ceux qui croient sachent. Et j'ai prêché aussi pour que ceux qui sachent puissent connaître la réalité de ce que je prêchais en priant avec foi. Et c'est comme ça que cette dame a été guérie, ainsi que ce monsieur et beaucoup d'autres. Croire, ça ne suffit pas. Prier, ça ne suffit pas. C'est pareil pour vous. Prier, ça ne suffit pas. Croire, ça ne suffit pas. Il vous faut savoir, il vous faut connaître et faire agir votre foi. Amen. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs et de leur donner des idées, l'imagination pour savoir ce qu'ils ont à faire et qu'ils le fassent pour ta gloire et porter du bon fruit afin que cela te glorifie. Merci Jésus de leur donner aussi cette grande satisfaction de se coucher le soir en disant « J'ai fait quelque chose de super aujourd'hui et je suis fier de l'avoir fait. » Merci Jésus. Bénis-les, bénis chacun. Amen. 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 Au revoir, à bientôt.